Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Maté Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Alors aujourd'hui on va parler de matériaux qui capturent la pollution, alors on va vous en dire plus dans quelques instants. Pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Paul Dabrowski. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Paul. Donc tu es doctorant en première année au LASIR. Ton sujet de thèse s'intitule « Spectroscopie optique avancée pour l'étude des interactions et de la réactivité de polluants atmosphériques absorbés dans des matériaux poreux photoactifs ». Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement sur quoi tu travailles ?
Oui, alors en fait, l'idée... c'est qu'on a des polluants donc, qui sont dans l'air pour différentes raisons. Donc on peut avoir un certain nombre, notamment d'activités humaines, qui vont produire ces polluants qui nous embêtent. Et donc on va vouloir éviter que ces polluants aient leurs effets néfastes en étant un peu partout dans l'atmosphère. Donc une idée pour ça, ça va être d'essayer de les mettre dans des matériaux. Donc en fait, l'idée, c'est un petit peu comme avec une éponge, de dire, bon, bah, en fait, on a ces composés qui sont dans l'air et on va les mettre dans un composé qui est solide et qui a plein de trous, donc un matériau poreux. L'idée, c'est que comme ça, on peut beaucoup plus facilement gérer ces polluants, puisque en fait, ils sont dans un espace qui est maintenant confiné. Et ils vont avoir une réactivité un peu particulière, ils vont se comporter différemment quand ils sont dans ce matériau-là par rapport à quand ils sont dans l'air. Et donc, l'objet de ma thèse, ça va être de comprendre comment ils vont pouvoir interagir avec ces matériaux finalement.
Et alors justement, qu'est-ce que la spectroscopie, je vais y arriver, optique avancée ?
Alors en fait du coup, là l'idée c'est que bon, quand on va faire des spectroscopies optiques, ça veut dire qu'on a, si vous voulez, quelque chose comme une question-réponse entre lumière et matière. Donc ça veut dire que par exemple, on peut envoyer de la lumière visible ou de l'ultraviolet sur notre échantillon, et donc ça va faire bouger les électrons dans la matière. Donc en fait, c'est de la spectroscopie électronique ou de la spectroscopie UV visible. Et donc ça, en fait, c'est assez marrant à regarder puisque ça correspond en fait à des choses qu'on peut voir à la couleur du matériau, par exemple. Maintenant, quand on va sur des spectroscopies optiques avancées, en général, ce qui est considéré comme les spectroscopies optiques classiques, on peut considérer notamment l'UV visible, l'infrarouge ou encore le Raman comme étant des spectroscopies optiques qui sont, on va dire... considéré comme étant classique dans le domaine. Quand on parle de spectroscopie optique avancée, on peut parler notamment des spectroscopies temps court, où en fait on va essayer d'aller regarder ce qui se passe sur seulement une fraction de seconde. Ça peut aller en dessous de la nanoseconde hein, comme échelle de temps. Et donc ça requiert des montages expérimentaux qui sont pas faciles. Mais on a la chance d'en avoir un qui est au LASIR de montage. Et qui nous permet du coup d'essayer de comprendre ce qui se passe sur des échelles de temps court et donc en fait vraiment d'avoir toutes les étapes du mécanisme tel qu'on peut l'étudier en cours, en fait de voir par exemple là où va aller l'électron et comment ça va se passer. Ça peut être assez important pour comprendre.
Ok, et alors justement tu nous parles de montage, est-ce que tu peux nous décrire un peu sur quel type d'équipement tu travailles ?
Oui, bien sûr. Alors les spectroscopies optiques avancées, donc celles qui sont en temps court, je n'ai pas encore travaillé dessus. Parce que mon sujet de thèse n'est pas encore assez avancé là-dessus, je dois encore continuer à travailler pour pouvoir faire ça. Mais sinon, je vais travailler sur des équipements qui sont à l'UCCS pour fabriquer mes matériaux. Donc en fait, ça va être une balance pour peser mes produits, ça va être un four pour faire mes synthèses, ça va être une centrifugeuse pour faire les séparations et donc purifier mon produit. Maintenant, dans tout ce qui est caractérisation, je m'ai appuyé beaucoup sur des spectroscopies optiques plutôt classique pour l'instant, donc la spectroscopie Raman. Donc en fait, on va envoyer un laser sur notre échantillon et on va regarder, l'idée c'est qu'on a un peu comme une caméra, si vous voulez, qui va regarder en fait à quel point le laser va avoir gagné ou perdu de l'énergie. Donc en fait, est-ce que, par exemple, si on est sur du vert initialement, est-ce qu'on va plutôt aller vers le rouge, par exemple, à quel point ? Ben, en fait, ça peut nous donner des informations, un peu comme en spectroscopie infrarouge, où en fait, on envoie de la lumière, cette fois-ci, qui est infrarouge. Et donc, on va regarder, est-ce qu'on en perd à telle longueur d'onde ou telle longueur d'onde. Et encore une fois, ça nous donne des informations. Voilà.
Très bien. Donc, si je résume, l'idée, c'est de fabriquer, puis d'étudier des matériaux qui ont pour objectif de capturer les polluants dans l'air.
Tout à fait. C'est ça, l'objectif.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de ces polluants atmosphériques ?
Bien sûr.
Qui sont-ils ?
Alors, il y en a beaucoup. Dans le cadre d'une thèse, je peux pas travailler sur tout. Il y en a beaucoup trop. Donc là, on travaille sur deux familles de polluants. Une famille qui est relativement habituelle, qui est les HAP. Donc, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est une famille de molécules qui est émise notamment par les processus de combustion incomplète. Donc ça peut être dans le transport, ça peut être quand on fait brûler du bois pour se chauffer, ça peut être des choses comme ça. Et donc c'est des composés qui peuvent être toxiques ou CMR par exemple. Donc CMR c'est pour cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et donc qui vont venir nous embêter un petit peu. La deuxième famille de polluants sur laquelle on travaille, c'est un petit peu plus bizarre entre guillemets, dans le sens où c'est l'iode. En fait, et notamment l'iode 131, qui est un isotope radioactif de l'iode qui peut être émis notamment à la suite d'un accident nucléaire, comme ça s'est passé à Tchernobyl. C'est le fameux iode qui peut provoquer des cancers de la thyroïde. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Alors moi, je travaille qu'avec de l'iode non radioactif, parce que j'ai pas la formation en sécurité pour travailler avec des composés aussi dangereux. Mais on veut quand même éviter, en cas d'accident nucléaire, que ça donne des cancers aux gens qui sont trop proches. Voilà.
Donc ça peut te donner une petite idée de comment pourrait réagir le matériau avec de l'iode radioactif.
C'est ça l'idée, effectivement. Okay. Puisque en fait, on ne va pas aller à l'issue de la thèse, là, je n'aurai pas des matériaux qui seront prêts pour être utilisés en conditions réelles. L'idée, c'est vraiment une première étape de dire, bon, bah, en fait, voilà, je vais mettre mon matériau en contact avec l'iode, je vais utiliser tout un tas de techniques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, en fait, comme ça peut nous donner des informations sur quel type de matériau est intéressant, sur comment est-ce qu'on peut changer ce matériau-là, le transformer un petit peu pour améliorer l'efficacité, pour avoir quelque chose qui soit le plus sécuritaire possible pour les gens, etc.
Et alors, dans l'intitulé de ton sujet de thèse, on y parle de matériaux poreux.
Oui.
Alors, il existe deux familles, si je ne me trompe pas.
C'est ça. En fait, il y a beaucoup de familles de matériaux poreux, mais dans le cadre de ma thèse, je travaille sur deux types de matériaux poreux. Les premiers, ce sont les Metal Organic Frameworks. Donc, ce sont des matériaux qui contiennent une partie organique et une partie minérale. Et donc, en fait, l'idée, c'est que en fait, on va assembler, du coup, en fait, on va alterner la partie organique, la partie minérale, pour faire un assemblage un petit peu comme les jeux avec les aimants, avec les sphères et puis les espèces de bâtonnets qu'on a. Avec les sphères qui sont la partie minérale et les bâtonnets qui sont plutôt la partie organique. Ce qui est assez intéressant avec ces matériaux-là, c'est qu'en fait, on peut, en jouant sur les différents composants, mais en fait, par exemple, on peut changer de métal ou on peut changer de partie organique. Donc, en fait, changer de partie organique, ça peut correspondre à changer la longueur des bâtonnets dans l'exemple que je donnais. Et donc, en fait, ce qui est amusant, parce que c'est assez intuitif finalement, c'est qu'en fait, si on prend l'équivalent de mes bâtonnets qui sont plus longs, et ben en fait on a des pores qui sont plus grands et on peut faire entrer des molécules qui sont plus grandes. Et donc c'est un paramètre sur lequel on peut jouer. Et il y en a plein d'autres. Donc ces matériaux-là sont assez amusants puisque en fait on peut adapter plein de choses, un peu comme un jeu de construction. La deuxième famille de matériaux sur laquelle je travaille, c'est les éolites. Donc c'est des aluminosilicates poreux. Donc en fait c'est des matériaux alors à l'origine qui sont naturels, mais aujourd'hui c'est des matériaux synthétiques qu'on utilise et qui donc en fait vont pouvoir capturer un certain nombre de choses, parce qu'en fait dans leur structure cristalline, dans leur organisation dans l'espace, c'est-à-dire qu'en fait la matière va se répéter en fait régulièrement. Donc par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple tous les 8 angstroms ou 0,8 nanomètres si vous voulez, on va avoir exactement le même motif qui va revenir. Et l'idée c'est que dans le cas des éolites, en fait, dans ce motif-là, ben, en fait, il y a un endroit où il n'y a pas de matière. Il y a un endroit où il y a un trou. Et donc c'est dans ce trou-là qu'on va pouvoir mettre nos gaz et essayer de les retenir. Voilà.
Et donc les MOF sont déjà connus dans le monde scientifique, c'est bien ça?
C'est un peu... Les MOF comme les éolites sont déjà connus dans la littérature scientifique. Les éolites ont une utilisation plus ancienne, on va dire.
Et donc, toi, tu travailles sur un MOF bien précis?
Tout à fait. Donc, je travaille sur un MOF qu'on appelle l'UIO66. Donc, en fait, c'est un code qui est lié à l'université qui l'a fabriqué. Et c'est le matériau numéro 66, voilà. C'est un UIO66 au cérium. Donc, on utilise un métal qui est une terre rare, en fait, qui est le cérium. C'est un métal un peu particulier, puisque, en fait, ça a beau être une terre rare, il est assez fréquent il est assez commun dans la croûte terrestre. Il est à peu près aussi courant que le cuivre, en fait. Il a des propriétés électroniques qui sont intéressantes, c'est-à-dire que en fait, il va pouvoir changer de degré d'oxydation, et nous, ça nous intéresse en tant que chimiste, parce que comme en fait, il peut changer, il peut aider aussi nos polluants en fait à être transformés, à changer aussi. En même temps, et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'utiliser, même si le fait qu'il soit comme ça, qu'il puisse bouger un petit peu, c'est pas facile pendant la synthèse, parce que en fait, on contrôle pas forcément parfaitement ce qu'il fait dans ces conditions-là, malheureusement.
Et c'est justement ce qui est difficile à synthétiser quand tu essayes de synthétiser les MOF.
Oui, en fait, dans le cas du MOF au cérium, enfin de nos MOF au cérium, effectivement. En fait, il y a plein de méthodes qui existent déjà pour d'autres métaux. Et en fait, pour le cérium, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, puisqu'il y a quelques informations dans la littérature quand même, mais c'est quelque chose qui reste relativement récent. C'est des synthèses sur lesquelles on n'a pas forcément encore absolument tout compris, même s'il y a quand même beaucoup d'avancées qui ont été faites. Et il y a aussi que, en fait, d'un laboratoire à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes équipements. Ça peut paraître un peu bête, mais on n'a pas exactement les mêmes fours, on n'a pas exactement les mêmes tubes pour faire les synthèses. Et comme c'est des synthèses avec une température précise et avec un temps qui est assez court, et ben en fait, il suffit d'avoir un tube qui n'a pas exactement la même épaisseur de paroi. Et ben en fait, c'est comme en cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change de plat, par exemple, même quand c'est la même recette, ben en fait, on n'a pas forcément le même résultat, et donc faut essayer de réadapter, et ça peut prendre un peu de temps.
Et du coup, justement, quelles sont ces étapes de fabrication, on va dire ?
Alors, au niveau expérimental, en fait, on utilise une méthode qui s'appelle le one pot, et donc qui consiste vraiment juste à dire on a tous nos composants de synthèse. Donc là, ça va être ma partie organique, ma partie minérale que je vais rajouter dedans. Je vais ensuite mettre ça dans un solvant. Donc c'est l'équivalent de l'eau quand on fait cuire des pâtes. Hein. Et puis on va ensuite rajouter un modulateur. Donc en fait c'est un composé qui nous permet d'adapter la vitesse de cristallisation. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est l'acide acétique qu'on met. L'acide acétique, c'est ce qu'on retrouve dans le vinaigre, hein. Donc ça n'a rien de très original, mais voilà. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a tout mélangé dans le tube, on ferme le tube et on n'a plus qu'à le mettre au four, à attendre. Et ensuite ça se fait tout seul dans le four. On n'a plus qu'à nettoyer notre échantillon et puis ensuite essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de le regarder un petit peu avec nos techniques de caractérisation. Voilà.
Donc aujourd'hui, tu es en première année de thèse. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu d'avancée ou en tout cas du travail que tu as déjà accompli ?
Oui, on a pu réaliser un certain nombre de synthèses, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait. On a pu essayer aussi, par exemple, dans nos synthèses, de mettre deux métaux ensemble. Ça fonctionne. Et puis, on a pu essayer de regarder ce qui se passait quand on le mettait en contact avec l'iode. Et du coup, justement, en fonction du métal qu'on choisit, bah, en fait, on a une transformation de l'iode ou pas à l'issue du contact. Et en fait, cette transformation de l'iode, nous, elle nous intéresse parce que quand on transforme l'iode, on le rend moins volatile et donc moins susceptible de ressortir du matériau et de se retrouver à nouveau dans l'air.
Justement, comment ça fonctionne pour que le matériau capture le polluant ?
Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met du coup notre matériau en contact avec le polluant et on rajoute, alors en atmosphère, on met que de l'argon parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet on va dire de ne pas se préoccuper des autres interactions qu'il pourrait y avoir. C'est encore une fois quelque chose qui veut dire que bah, notre matériau, on ne sait pas s'il va bien marcher dans l'air, puisqu'on ne l'a pas encore mis en contact avec l'air et l'iode en même temps. Donc quand on le met en contact avec l'argon et l'iode, bah, en fait, ça va passer donc, dans les trous du matériau, parce qu'il y a bien un certain volume du matériau en fait, qui n'est pas occupé. Et donc en fait, quand ça va passer dans ces trous-là, en fait, il y a la surface de notre matériau qui va en fait, avoir des interactions avec les gaz qui vont passer. Et donc c'est l'intérêt du coup de mettre argon plus iode, puisqu'en fait il peut y avoir des interactions intéressantes avec l'iode, mais l'argon en fait finalement ne va pas tellement interagir. Et donc ça donne une possibilité comme ça pour ce matériau de retenir en fait l'iode par cette interaction et potentiellement par une transformation. Mais ça c'est quelque chose qu'on doit étudier et qui n'est pas forcément accompli à 100% à ce jour.
Et ta thèse, c'est une thèse fondamentale.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une thèse applicative et une thèse fondamentale ?
Bien sûr. Alors en fait, là, l'idée, c'est que dans cette thèse, en fait, mon objectif final, c'est de proposer un mécanisme d'interaction. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une certaine interaction qui se fait entre notre polluant et notre matériau poreux. Et on veut essayer de, en fait, à partir d'un certain nombre de techniques dont on a parlé tout à l'heure, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et à la fin, on considère qu'on a réussi si on a compris ce qui s'était passé. Mais, par contre, contrairement à une thèse applicative, à la fin, je vais pas avoir un matériau qui va être prêt à être envoyé à l'industrie ou à être utilisé en fait en conditions réelles. Ça, pour ça, en fait, il y a encore d'autres travaux, par exemple une thèse applicative, qui serait nécessaire pour savoir comment on peut faire pour ça. Et c'est pas les mêmes considérations en fait.
Très bien. Merci Paul pour ces premières réponses. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale avec le morceau Stars Align. C'était Stars Align. On va revenir sur une petite phrase que tu as dite tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même pourquoi on distribue de l'iode du coup lors d'accidents nucléaires ?
Oui, en fait, tout simplement, l'iode, il va se fixer notamment dans la thyroïde, en fait, par le métabolisme, parce que c'est utile pour le corps. Par contre, on veut éviter que ce soit l'iode radioactif qui se fixe. Donc l'idée, en fait, quand on va donner des capsules d'iode, en fait, c'est de saturer complètement le corps en iode. De ce fait, en fait, il n'y a plus que l'iode non radioactif dans le corps. Et en fait, comme ça, le métabolisme n'arrive pas à absorber en fait, cet iode radioactif qui est dans l'atmosphère. Et donc, ça évite les risques de cancer. Voilà.
Merci. On va passer du coup maintenant à la deuxième partie de cet épisode. On est toujours en compagnie de Paul, du coup, doctorant en première année. Donc, je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as suivies ?
Alors, j'ai fait un bac S. Et à l'issue de ce bac S, eh bien, initialement, je suis parti en L1 de droit. Finalement, ça ne m'a pas correspondu, donc... Je suis reparti après en licence SESI, donc c'est l'équivalent du MPC SI maintenant. Là, ça m'a beaucoup plus plu. J'avais fait mécanique et chimie en première année, et puis ensuite, je me suis spécialisé en chimie, parce qu'à la fin de la première année, on doit choisir une matière. Voilà. Et puis, à l'issue de cette licence, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai fait Polytech Lille en section... matériaux, parce que en fait la chimie, les matériaux, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Puis à l'issue de ça, j'ai pu trouver mon stage et puis une thèse. Voilà.
Et justement, comment tu as décidé de changer de formation ?
Ben en fait, que ce soit les méthodes d'apprentissage ou même le contenu, en fait, j'ai réalisé assez rapidement que je me sentais mal en fait en licence de droit, parce que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, bah voilà, je veux pas rester là parce que je me vois pas faire 3 ans en licence là-dedans pour ensuite faire un métier qui va être encore dans ce domaine-là parce que c'est pas pour moi. Et donc, je me suis renseigné un petit peu avec la fac sur ce qui était possible comme réorientation. Et en fait, il s'avère que en SESI, c'est possible de se réorienter, de changer en fait en cours d'année. Puis j'avais un ami aussi qui était là et qui a pu me conseiller un petit peu là-dessus. Donc ça a été une aide aussi.
Aujourd'hui, tu nous as parlé beaucoup d'équipements différents. Mmh. Est-ce que tu dois régulièrement utiliser des nouveaux équipements ? Et du coup, est-ce que tu dois te former assez régulièrement ?
Alors ça arrive de temps en temps, effectivement, que j'utilise de nouveaux équipements. Et en fait, je ne dois pas forcément toujours me former dessus, ça dépend. C'est-à-dire que en fait, quand ça va être des équipements, on va dire, locaux, des équipements du laboratoire en lui-même, en fait, dans ce cas-là, en général, surtout si c'est des mesures que je vais faire souvent, je vais me former. Et donc, en fait, on a des gens qui sont spécialistes de ces différentes techniques qui vont être très bien pour m'aider à comprendre comment utiliser ces machines-là. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des méthodes qu'on veuille utiliser une fois ou deux, mais qu'on n'utilise pas régulièrement. Et puis il y a aussi des méthodes assez spécifiques qui sont pas forcément simples d'accès, et dans ce cas-là on a la plateforme de caractérisation de l'Institut Chevreul en fait, dans laquelle on va pouvoir du coup par exemple, même pour juste une fois, aller voir en fait un spécialiste et un équipement un peu particulier qui est en fait pas facile à acquérir pour un laboratoire, hein. Je pense par exemple à l'XPS, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein, et où en fait du coup on va avoir des gens qui vont être spécialistes de la technique, qui vont pouvoir faire la mesure pour nous expliquer un petit peu comment ça marche, et puis nous aider aussi même à analyser les résultats. Et donc ça, c'est super, parce que en fait, si je devais apprendre toutes les techniques à Chevreul, en fait, au bout des 3 ans, j'aurais pas fini et j'aurais pas avancé sur mes thèses.
Et ben justement, on en parle dans 3 ans, tu sais un peu ce que tu aimerais faire ?
Non, c'est une question intéressante. Moi, je m'y retrouve beaucoup dans mes travaux de thèse aujourd'hui. C'est quelque chose qui me plaît, donc j'aimerais bien continuer dans une carrière académique. Et puis, par ailleurs, j'ai eu aussi l'occasion d'être doctorant contractuel, c'est-à-dire de faire des missions d'enseignement. J'ai encadré des TP en première année, et c'est une expérience qui m'a énormément plu aussi. Et donc, j'aimerais bien me diriger soit vers un métier d'enseignant-chercheur, soit vers un métier d'enseignant, donc plutôt vers une carrière académique, finalement.
Qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement ?
En fait, c'est le fait qu'on a quelque chose qui... La science, ça peut paraître des fois un peu compliqué, initialement, selon le vécu personnel des étudiants. Et j'aime beaucoup l'idée de dire, en fait, ça a l'air compliqué au départ, mais au fur et à mesure, en découpant, en fait, ça devient logique et ça devient quelque chose avec lequel on peut interagir. Dire, en fait, c'est pas un livre... qu'on va ouvrir et qu'on va regarder, c'est finalement un petit peu comme en cuisine, justement, on va pouvoir interagir avec et puis dire « Ah, je vais mettre un peu plus de ci ou un peu moins de ça ». Mais j'aime bien la comparaison avec la cuisine parce que je suis chimiste, mais voilà.
On va finir cette émission avec une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux plus jeunes qui seraient intéressés par la recherche ?
Bien, c'est de, je dirais, de garder l'esprit ouvert, de regarder autour de vous, puisque en fait, la science, il y en a partout. C'est juste qu'initialement, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, d'aimer ce que vous faites et de faire ce que vous aimez, quoi. Voilà.
Parfait. Merci Paul pour toutes ces réponses et merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 1er octobre, pour une émission spéciale de Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.